encore deux ouvrages parus le même mois, en mars 2025. Vous êtes coutumier du fait. La dernière fois que nous nous sommes vus, il y a 18 mois, pour une présentation d'un de vos précédents livres, vous m'avez dit en confidence que vous avez 7 ou 8 livres déjà en chantier dans votre ordinateur et une dizaine d'autres dans le même temps dans votre tête. Je pense que le rythme n'a pas baissé. Alors nous allons évoquer ensemble l'autre collaboration avec un C majuscule qui évoque donc un moment particulier de l'histoire française contemporaine, sous-titré, c'est l'objet du livre, Les origines françaises de l'islamo-gauchisme. Mais je voudrais juste signaler à celles et ceux qui nous regardent un nouvel opus dans votre désormais célèbre journal hédoniste que je montre à la caméra. C'est l'autre livre qui est sorti en mars 2025. C'est un journal dont vous dites qu'il a plus de 30 ans et que désormais, au fil du temps, dites-vous, il est devenu un genre autobiographique. Alors, c'est un recueil de textes divers, une chronique profuse, ironique, colérique parfois, densément cultivée et documentée, hédoniste, onfrayenne. Je ne sais pas si le terme existe pour tout dire. On saute du coq à l'âne, il est question d'animaux quantiques, on plonge du Caribe en Scylla, entre les délires terroristes robespierriens d'un linguiste parisien maoïste Jean-Claude Milner et ce que vous nommez une fachosphère de gauche qui, quelque part, nous renvoie à l'autre livre dont on va parler plus longuement dans un instant. Bref, on ne s'ennuie pas à vous lire et on y trouve à la toute fin de ce volume de votre journal hédoniste, donc deux pages savoureuses sur la manière avec laquelle, très souvent, les journalistes lisent un livre et en parlent. Je laisserai les lecteurs voir ça. C'est en conclusion d'un chapitre passionnant sur l'œuvre maîtresse de l'historien Olivier Pédré-Grenouillot, auteur du très remarquable et très négrière Essai d'histoire globale, qui a été publié en 2004. C'est un très remarquable ouvrage, mais aussi très détesté par une partie des historiens qui se réclament de la gauche. Comme je ne suis pas journaliste, simplement un modeste universitaire retraité, je me suis efforcé de lire l'ouvrage dont nous allons parler maintenant avec un maximum de précision et de rigueur à l'ancienne, en surlignant et en notant le texte. Alors, sur la photo de couverture du livre L'autre collaboration, il y a une cour populaire qui est un jury de tribunal dans les années 30 en URSS. Vous me disiez tout à l'heure que c'est un peintre ukrainien et votre éditeur a incrusté des noms: Alain, Sartre, Beauvoir, Genet, Ricoeur, Garaudy, Deleuze, Foucault, Badiou, Lacoulabarthe, Nancy. Sacrée brochette, pourrait-on dire. Il manque sur la photo de couverture quelques noms auxquels vous consacrez pourtant plusieurs pages et non des moindres. Marx, évidemment, dont vous dites que c'est leur père à tous, entre guillemets. Quelques figures de droite, Guiton, Beaufray, on y reviendra. Votre liste n'est pas un spicilège hasardeux ou un inventaire à l'après-vert. Le point commun de tous ces penseurs, c'est l'antisémitisme, la plupart du temps caché sous la feuille de vigne de l'antisionisme, mais pas toujours et pas seulement. Ils se retrouvent dans ce que vous nommez l'islamo-gauchisme. Et dans votre préface, vous nous précisez bien quel est le propos de votre livre. Je vous cite, Michel, « Mettre au jour les racines philosophiques de l'islamo-gauchisme contemporain ». Et je voudrais commencer par vous interroger sur le début de votre conclusion, page 407. Je vous lis. « J'avoue qu'en commençant ce livre, je n'imaginais pas que je découvrirais autant d'ordures. Alors, si cela vaut quelque chose, j'avoue à mon tour, modestement, qu'en achevant la lecture de votre livre, je n'imaginais pas que je venais de découvrir autant d'ordures. » La formule est rude et qui plus est doublement tranchante. Car on ne sait si vous faites référence, en parlant d'ordures, aux propos que vous avez découverts ou à leurs auteurs. La langue française permet souvent opportunément d'échapper au délit d'injure. Pouvez-vous développer la thèse centrale de votre livre? Je vous la lis, vous la connaissez fort bien. Je comprends mieux aujourd'hui pourquoi l'antisémitisme revient porté par la gauche. Cette gauche est très douée pour fabriquer une mythologie à sa gloire, en affirmant qu'elle s'est toujours trouvée du bon côté de l'histoire, nonobstant ses combats douteux, ses choix liberticides et ses millions de morts au compteur. Quels sont les fondements de la gauche antisémite?
Eh bien, d'abord, merci pour cette belle présentation. Vous faites partie des gens qui lisent, ça se voit, et qui lisent bien, parce qu'effectivement, il y a dans le choix du mot « ordure » cette possibilité de qualifier des personnes en même temps que des pensées, des penseurs et des pensées. Et il faudrait évidemment un long temps pour préciser ce que j'entends par, le devenir, je dirais, anti-sioniste de l'antisémitisme occidental. En deux mots, il y a un antisémitisme à partir du moment où Jésus, qui est un juif et qui nous dit que le judaïsme ne doit pas être pensé comme ceci ou comme cela, fait sécession et qu'il est crucifié sous Ponce Pilate, etc. Je ne dis rien sur Jésus ce soir, je me calme. Et donc, certains juifs disent ça n'est pas lui le Messie que nous attendons. Bien sûr que nous l'annonçons, mais c'est pas lui, il viendra encore, mais cet homme est un imposteur. Et donc, il y a un antisémitisme qui est d'abord l'antisémitisme chrétien, qui consiste à dire que les juifs, c'est un peuple déicide. C'est aux juifs qu'on doit la mort de Dieu, la crucifixion du fils de Dieu. Et donc ça dure assez longtemps, je dirais jusqu'aux Lumières, la Renaissance, puis les Lumières, enfin, ce moment de la pensée où il y a un affranchissement rationnel de la philosophie. Et là, pour le coup, on commence à entrer dans un anti-christianisme qui est plutôt un anti-cléricalisme. Il s'agit de faire avancer la raison, donc faire reculer la foi. Et là, pour le coup, les Juifs, ce sont les chrétiens. C'est la même chose. Pour le coup, ça ne s'oppose plus, mais c'est le christianisme dont il faudrait se défaire avec le Vatican, avec les évêques, avec les curés, avec etc., etc. Donc là, ça devient un antisémitisme philosophique dont le représentant emblématique est plutôt Voltaire.
Helvétius.
Alors, j'allais dire emblématique, Voltaire, avec tous les autres. Mmh. Et là, pour le coup, on les cherche, ceux qui ne seraient pas antisémites. Et c'est assez sidérant de voir combien la philosophie dite des Lumières est assez sombre et obscure sur ce terrain-là, y compris sur le terrain des femmes, y compris sur le terrain des esclaves, y compris sur le terrain d'un certain nombre de minorités. Les Lumières ne sont pas si lumineuses que ça, y compris les fameuses Lumières dites radicales, les d'Holbach, par exemple, mmh. ou les Lametri ou Sade, qui sont aussi des antisémites. Et puis, il y a un moment donné où on a la révolution industrielle au 19e siècle, et là, on commence à associer les Juifs et l'argent. On a interdit aux Juifs d'avoir un certain nombre de professions. On leur a laissé l'argent. L'usure était interdite aux catholiques, aux chrétiens. Et donc, évidemment, ils se sont occupés de l'usure. Donc, ils ont fait de l'argent. Donc, ils sont devenus banquiers. Et pour certains, et talentueux dans la banque. Et là, on a dit, le Juif, c'est l'argent. L'argent, c'est le Juif. Ils n'aiment que l'argent. Il n'y a que ça qui les intéresse, etc. Et là, on commence à associer, pour le coup, la révolution industrielle, le capital, le capitalisme et l'argent. Donc, il y a un anticapitalisme antisémite. Et là, on est aux alentours de la révolution industrielle, disons 19e siècle pour aller vite. Et puis, il y a
Michel, les auteurs, c'est Fourier, Proudhon, qui est quand même étonnant hein, dans la violence. Hein. Mais vous en citez d'autres, hein, y compris Leroux et Blanqui.
Bien sûr, hein. Et Marx, avec la réflexion sur la question juive, en sachant que, parce qu'on dit toujours que Marx était juif, il était d'une origine juive, mais que son père s'est converti au luthérianisme et que Marx lui-même était luthérien. Et quand il s'est marié avec la baronne Westphalen, ça s'est fait dans un temple, donc chez les protestants, et pas du tout dans une synagogue. Marx n'était pas circoncis, il ne connaissait pas l'hébreu, il n'a pas lu le Talmud. Enfin, je ne sache pas qu'il ait fait des études un peu poussées sur ce terrain-là. Alors Proudhon, il faudrait remettre en perspective. J'écris d'ailleurs tout de suite un livre sur Proudhon. Et les textes antisémites de Proudhon sont des textes qui sont datés de l'époque où il rencontre Marx à Paris et où il parle beaucoup la nuit. Il discute jusqu'au petit matin sur la dialectique de Hegel, sur la pensée de Feuerbach, sur les réflexions mythistes, comme on dit, c'est-à-dire les premiers à dire qu'il n'y a pas eu d'existence historique de Jésus, les frères Bauer. Et il écrit, Proudhon, 800 pages d'un livre qui s'appelle Philosophie de la misère. Et c'est assez indigeste.
Marx va lui répondre, misère de la philosophie.
Et Marx répond avec ce texte terrible, misère de la philosophie. Et il répond dans ses carnets, Proudhon, que c'est le ténia du socialisme, etc. Bon. Et que les juifs sont tous ceci, etc. Donc évidemment, c'est un antisémitisme avéré, mais sous le coup, j'enlève le mais disons, sous le coup d'une colère contre Marx, associé au judaïsme avec les autres socialistes et communistes allemands avec lesquels il discutait à cette époque-là. Pas plus défendable pour autant. Et puis, il y a un moment donné où on commence à avoir un antisémitisme scientifique, prétendument scientifique. C'est-à-dire, on fait de la craniologie, on commence à mesurer l'écartement des yeux, des oreilles, des narines, on commence à mesurer, on a des brachiocéphales, des dolichocéphales, ce genre de trucs, et puis on dit, eh ben, regardez-moi ça, il y a des races supérieures, des races inférieures, les sémites, les juifs, les ariens, etc. Des gens comme Vacher de la Pouge, 19e siècle. Et puis, on a Hitler, la Shoah, la libération des camps, et on découvre ce qui s'est passé. Donc on peut plus être antisémite comme avant, je veux dire. On peut pas dire le peuple déicide, on peut pas dire l'argent, le capital, on peut pas dire ils ont des cerveaux qui sont plus petits, plus gros, je ne sais quoi. Il faut trouver autre chose. Et comme il y a la création de l'État d'Israël, eh bien pour le coup, on trouve une autre formule qui est l'antisionisme. Et donc, le négationnisme qui vient de la gauche, on pourrait parler de Forisson et de quelques autres, qui nous disent, mais ces Juifs, ils ont inventé la Shoah. Il n'y a jamais eu de Shoah. Il y a eu des camps, mais c'était des camps de prisonniers. Il y a eu des endroits qu'on a présentés comme des douches où on allait les tuer avec du Zyklon B. C'était pas du tout ça. C'était des douches où on les lavait pour éviter le typhus, etc. Bien sûr qu'il y a eu des fours crématoires, mais c'était pour détruire ces corps qui auraient pu être gênants parce qu'on aurait pu propager le typhus. C'était donc de la prophylaxie, c'était donc de l'hygiène, etc. Et le négationnisme et le révisionnisme s'appuient là-dessus en nous disant que ils ont fait ça pour une raison bien simple, voler aux Palestiniens cette terre qui est devenue la terre d'Israël. Et nous sommes dans cette période-là. C'est-à-dire qu'il y a eu donc des façons d'être antisémite sur 20 siècles, et que la façon qu'on trouve aujourd'hui trouver les antisémites d'être antisémites sans donner l'impression qu'ils s'inscrivent dans la tradition de l'antisémitisme, c'est d'être antisioniste en disant « Nous, on n'a rien contre les Juifs, on voudrait juste qu'ils débarrassent la terre d'Israël et qu'ils disparaissent et qu'on puisse réaliser une Palestine du Jourdain jusqu'à la mer. » Et qu'est-ce qu'on fait des Juifs qui sont sur place? C'est la question qu'on peut poser à ces gens qui nous disent qu'ils ne sont pas antisémites. Et c'est la gauche qui s'empare de cet antisionisme radical.
Vous avez une formule, page 31, qui est terrible. Hein, c'est dans votre introduction que vous consacrez, donc Karl Marx est au cœur de votre introduction. Vous dites les chiens, entre parenthèses marxistes, ne font pas des chats, entre parenthèses philosémites. Alors pourquoi vous dites ça? Je pense parce que vous avez, vous citez plusieurs passages de La question juive, hein, qui est ce livre qui écrit Marx. Alors vous allez me corriger, je pense, Michel, mais on dit que c'est encore le Marx jeune hegélien. Hein, qui répond à Bauer. Hein. Il y a une bataille entre eux. Hein. Et dans cet extrait que vous... Un des extraits que vous reprenez de La question juive, il y a Marx qui se pose des questions et qui répond. « Quel est le fond profane du judaïsme ?» s'interroge Marx. Il répond « Le besoin pratique, l'utilité personnelle. » Deuxième question de Marx. « Quel est le culte profane du juif ?» Il répond « Le trafic. » Troisième question de Marx, quel est son dieu profane? Réponse, l'argent. Et puis, il conclut cette série de questions-réponses à lui-même. Là, c'est Marx qui parle. Dans sa dernière signification, l'émancipation juive consiste à émanciper l'humanité du judaïsme. C'est quand même une phrase qui est terrible. Et quelles vont être les conséquences de cela sur les successeurs de Marx, comme on dit, dans la pensée philosophique contemporaine française?
Cette pensée de Marx n'est pas de Marx. Vous avez raison de dire qu'elle est une pensée du jeune Marx. Mais bon, jeune Marx, vieux Marx, c'est toujours Marx. On évolue, on change, mais on peut être crédité de ce qu'on aura dit quand on avait une trentaine d'années, 20 ans ou 30 ans. Et là, pour le coup, quand il écrit... Alors, j'ai pas vraiment travaillé la référence directe. Je ne sais pas s'il l'a lu, mais enfin, du moins, c'est la pensée de l'abbé Grégoire. Et quand l'abbé Grégoire écrit sur la réflexion sur la dégénérescence, sur la régénérescence des Juifs, ça veut dire qu'ils sont dégénérés. Et je suis toujours très étonné, mais la culture de Marx était grande, et il connaissait évidemment l'abbé Grégoire, je pense que c'est un petit texte qu'il aura lu, mais je suis toujours très étonné de voir quelqu'un comme Robert Badinter, par exemple, préfacer ce texte en disant qu'il était formidable. Je ne suis pas étonné que Mitterrand l'ait envoyé au Panthéon. C'était une des facéties de ce monsieur qui avait la Francisque.
C'est parce que surtout rien ne vous étonne de la part de François Mitterrand.
Ah non, rien, ça c'est sûr.
Fermons la parenthèse.
Oui, mais ce texte, quand on l'a lu, je dis même qu'on n'est même pas tenu de le lire totalement, il suffit de lire le titre. Ouais. Sur la régénération de la race juive, on se dit, mais si on veut la régénérer, c'est qu'elle est dégénérée. Et la thèse de l'abbé Grégoire, qui est celle de Marx dans ce livre, il n'invente pas grand-chose. Marx, d'ailleurs, il pille beaucoup. Il pille beaucoup à Proudhon. C'est d'ailleurs pourquoi il le déteste tant. Mais je vais aller vite, mais en gros, un bon juif, c'est un juif mort, même symboliquement, enfin surtout symboliquement. C'est-à-dire, si vous, les juifs, vous arrêtez de croire à vos sottises, à vos balivernes, et si vous devenez un citoyen français, si vous mettez la République en avant, si, etc., etc., alors il n'y a aucun problème, vous serez régénéré, vous entrerez dans la logique de l'homme nouveau, qui était une obsession des Jacobins, qui sera ensuite, comme par hasard, une obsession des bolcheviks, qui sera ensuite, comme par hasard, une obsession des fascistes, qui sera ensuite, comme par hasard, une obsession du national-socialisme, et qui est aujourd'hui l'obsession de Madame Sandrine Rousseau, Elle appelle ça l'homme déconstruit. Mais l'homme nouveau des Jacobins, c'est l'homme déconstruit qui n'aime pas le comté, là, récemment, qui n'aime pas le comté, qui n'aime pas le barbecue, qui fait la vaisselle, etc., etc. Donc on a changé de niveau, mais enfin, c'est toujours sur cette logique. Et si vraiment on peut tolérer ou supporter les Juifs, c'est quand ils cessent eux-mêmes d'être Juifs. Qu'ils arrêtent avec leurs coutumes, qu'ils arrêtent avec leurs vêtements, on n'empêchera pas leur sale bouille, parce qu'il se met à écrire des pages. L'abbé Grégoire, moi, ça m'a sidéré sur le nez, sur la bouche, sur les oreilles, sur les cheveux, sur leurs mauvaises odeurs, sur leur logique incestueuse. Il y a tout ça dans l'abbé Grégoire. C'est pourquoi je suis toujours très étonné de lire la préface de Robert Badinter. Je me dis, mais a-t-il jamais lu ce livre en entier ? A-t-il confié la préface à quelqu'un qui aurait lu le livre pour lui ? Mais n'a-t-il pas même lu le titre du livre qu'il préface ? C'est une énigme tout de même. Mais tous ces gens qui nous disent « Ah, les Juifs, c'est formidable quand ils cessent d'être véritablement des Juifs », je dis « Ben voilà, on y est véritablement ». C'est la position de certains Juifs de gauche qui sont pro-palestiniens et qui sont anti-israéliens et qui sont contre les mêmes parfois anti-sionistes. Des Ronnie Broman, on a vu récemment Madame Orweiler ou Madame Anne Sinclair dire des choses un peu qui vont dans ce sens-là. Ah, si les Juifs cessaient d'être Juifs et devenaient des citoyens du monde, qu'est-ce que ce serait formidable? On aurait aussi des citoyens du monde en face qui s'appellent des Palestiniens, les uns voulant tuer les autres, mais c'est tout de même pas le problème. Et donc, les Palestiniens voulant tuer les Juifs, je précise. Parce
ça,
que
c'est pas dans le livre.
Non, mais je commente un peu le livre. Parce qu'il faut que les livres soient en relation avec l'immédiateté. Je fais la généalogie de l'islamo-gauchisme, mais pas seulement pour le plaisir intellectuel, mais aussi pour dire ça vient de loin. Et si ça se retrouve entre les mains sales, je dirais, de Mélenchon et de quelques autres, c'est parce qu'il y a tout ça derrière. C'est parce qu'il y a Garaudy, c'est parce qu'il y a Sartre, c'est parce qu'il y a tout ça.
Ça, on le voit dans un certain nombre de notes infrapaginales.
Oui, voilà. Hein. Je me suis amusé dans les notes.
Voilà, ça fait partie de l'intertextualité.
Oui, si ça permet de mettre quelques gifles.
Bon, voilà. Alors, le premier philosophe français que vous analysez dans son rapport à l'antisémitisme, c'est une grande figure, il s'appelle Émile Chartier, mais enfin, peu de gens savent exactement son nom. Il est passé à la postérité sous le nom d'Alain. Donc, il est né en 1868 dans l'Orne, il est mort en 1951 au Vésinet, et il est dans la première partie de votre livre, il y a six parties dans le livre, le titre de la première partie, c'est « Le pacifisme meurtrier ». Alors, c'était un très grand pacifiste. Bon. Compris. Et voilà le portrait que vous faites de lui, page 36. Je ne résiste pas au plaisir de le lire. Un Socrate portant costume, gilet, cravate, qui traverse dans les clous pour n'avoir pas affaire à la maréchaussée. Si la formule n'avait été, hélas, déjà attribuée, vous nous direz bien sûr à qui, on pourrait dire qu'il est le prototype du philosophe pour classe terminale. Fermez les guillemets. Alors, qui est Alain et comment est-il devenu ce qu'on appellerait peut-être avec Gramsci, pardon, hein, l'intellectuel organique de la Troisième République, y compris, et qu'est-ce qu'il a fait pendant la Seconde Guerre mondiale?
Alors, je suis originaire de l'Orne, j'habite pas très loin de Mortagne-au-Perche, qui est l'endroit où effectivement il est né, et j'allais régulièrement à Mortagne-au-Perche, et il m'est arrivé de conduire quelques amis à ce tout petit musée de campagne où il y avait le phonographe, enfin, le tourne-disque, je dirais, il y avait le piano, il y avait d'autres choses, de petites choses un peu misérables. Et puis un jour, la dame qui s'occupe du musée me dit « Ah, mais savez-vous que Alain a laissé un journal et que c'est un journal inédit, etc. » Je dis « Non, j'ignore complètement. « Voulez-vous le regarder ?» Je dis « Bah oui, bien sûr. » Elle m'amène un pavé et elle me dit « Ben voilà. » Et je tourne et il y a des dates. Et là, évidemment, c'est un journal qui commence un peu avant-guerre et qui se termine dans les années 50. Et là, je vais voir dans les années de guerre et je lis, c'était tapé à la machine avec les fautes qu'il y avait à l'époque sur ce genre de dactylographie. Et je vois concernant Hitler que Alain espère que monsieur Hitler va gagner la guerre plutôt que ce monsieur de Gaulle.
Et là, on est en 41
40, vous avez raison.
40, je crois, ouais. À la fin de l'année, ouais, ouais. Ou septembre 40. Oui.
Et donc, je me dis, mais je lis mal, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Et je tourne les pages, etc. Et je me dis, mais c'est quand même assez incroyable. Ce truc. Alors évidemment, il y a beaucoup de notes de lecture. J'ai lu Dickens, j'ai lu Stendhal, je relis Balzac, etc. Bon, ça peut être très intéressant. Mais je dis, écoutez, est-ce que vous voulez que je vous aide à publier ça? Ah ben oui, bien sûr. Et donc, je trouve un éditeur. Et l'éditeur me dit, ben bien sûr, merci, c'est vous qui avez apporté l'affaire, donc faites la préface, quoi. Et moi, je fais comme vous, c'est-à-dire quand je parle d'un livre, je l'ai lu en entier. Et quand on lit en entier les 500 pages du journal, on découvre un antisémite avant-guerre, pendant la guerre, après la guerre. Donc il y a des Aliniens, un mot pour Émile Chartier, il s'appelle Émile Chartier, il est prof, il veut pas forcément qu'on sache qu'il écrit, donc il prend un pseudonyme, il y a un poète normand qui s'appelle Alain Chartier, et donc il prend le prénom du poète d'Alain Chartier pour devenir le philosophe Alain. Parenthèse fermée, mais donc je regarde tout ça, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Alain, pacifiste, Mars ou la guerre jugée, etc., enfin des textes souvenirs sur la guerre, des textes formidables qui sont vraiment des textes pacifistes, puisse devenir antisémite. Alors c'est effectivement l'antisémitisme des pacifistes, c'est-à-dire des gens qui, comme Giono, comme Céline, comme Braziac, je ne sais plus, oui je pense, mais comme Drieu sûrement, sont des gens qui, comme André Breton, enfin André Breton ne sera pas antisémite, mais comme des gens qui ont connu le front et qui se sont dit plus jamais ça. On a vu vraiment la boucherie qui était la Première Guerre mondiale, cette guerre 14-18 a fait des millions de morts pour rien du tout, et donc il ne faut pas que ça revienne. La paix, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Alors, il faut toujours penser, effectivement, historiquement. C'est-à-dire que en 1933, par exemple, en janvier 33, quand Hitler arrive au pouvoir, il faut oublier ce qu'on sait d'Hitler. Mmh. Hitler, c'est pas celui qui a détruit massivement les Juifs. La décision, elle est prise à Wannsee, et c'est à partir de 1942. Donc, la guerre, c'est 39, c'est pas 33, etc. Donc, on peut dire des choses en 33 sur Hitler, puis en 34, puis en 35, etc. Donc, évidemment, quand on voit Hitler arriver au pouvoir, on se dit... Bah, c'est un type qui est en train de remettre un peu d'ordre. C'est un ancien combattant de la guerre 14-18, lui aussi. C'est quelqu'un qui a été humilié par le traité de Versailles. Bon, après tout, il aime son peuple. C'est ce que dit Alain.
Mein Kampf est jalonné de pages antisémites.
De pages, mais il n'y a pas d'invitation à la destruction physique des Juifs.
Il y a un grand débat, on sait, entre les fonctionnalistes et les intentionnalistes.
Hein, sur oui, sauf que ce texte qui date de 24 est un texte dans lequel, moi je l'ai lu, dans lequel il n'y a pas d'invitation à la destruction physique des Juifs. Ça n'existe pas. Alors, il y a de l'antisémitisme, hein. Faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a vraiment de l'antisémitisme, mais qui prend des formes diverses et multiples. Les gens qui ont analysé l'évolution de la pensée antisémite chez Adolf Hitler ont bien vu qu'il y avait, il y avait des moments dans l'histoire. Pendant très longtemps, d'ailleurs, il veut les déporter à Madagascar. Quand on dit déporter, c'est-à-dire qu'on les met sur un bateau, on les emmène à Madagascar, puis on leur dit, maintenant, vous êtes là chez vous, et vous occupez plus de nos banques, de nos écoles, de nos expositions de peinture. Mais il n'y avait pas de désir de les détruire, absolument. Je rappelle qu'Eichmann est quelqu'un qui apprend l'hébreu à l'époque. Qui lit le Talmud, qui lit la Torah, qui lit le Talmud, et qui travaille à ce projet d'envoi des Juifs à Madagascar. Et puis après, il y a Stalingrad, il y a cette espèce d'effondrement psychique d'Hitler qui doit comprendre que quand il perd sur le front russe est, il va perdre sur le front ouest et que ça sent la fin de la guerre. Et à ce moment-là, il décide à Wannsee de les détruire physiquement. Et là, on sait ce qu'est Hitler. On connaît le Hitler que nous connaissons maintenant, c'est-à-dire l'homme de la solution finale. Donc, juste pour replacer dans le contexte, mais c'est parce que c'est un contexte où, effectivement, en 40, ça n'est pas l'homme des chambres à gaz, mais c'est déjà l'homme de l'antisémitisme. Vous avez raison. Ça, il y a des pages entières. Plus que des pages, c'est tout le temps dans Mein Kampf. Et ce sont des gens qui disent jamais plus de guerre, et comme par hasard, la guerre, elle est faite par les Juifs. Les Juifs, ils font du business, ils font de l'argent, ils construisent les armes, et ils font de l'argent sur les armes. Puis évidemment, quand vous avez produit 10 000 obus, et les 10 000 obus, il faut les détruire pour pouvoir en reproduire 10 000. Donc ils ont intérêt à déclencher les guerres, à les entretenir, etc. On ne refera pas la guerre.
Donc Alain, il est dans cette sensibilité-là.
Voilà. On ne refera pas la guerre des Juifs, et on est pacifiste, donc on va jusqu'au bout. Mais il y a aussi l'idée que chez Alain, cette espèce de personnage qui se sculpte lui-même en disant « je suis un gentil monsieur, moi j'aime beaucoup les gens ». En fait, c'est un jaloux. Il dit « je suis… »
Jaloux de Bergson.
Il est jaloux de Bergson, qui est juif. Il est jaloux de Lévi-Brulle. Il est jaloux d'un certain nombre de gens, Braunschweig, qui occupent des positions dans la société, le Collège de France, qui sont, etc. Et Alain dit « moi, je suis prof en prépa, ça me suffit, je veux bien ça, etc. » Pas du tout. Il aurait aimé être prof à la Sorbonne, il aurait aimé être au Collège de France. Il ne l'était pas, professeur dans ces endroits prestigieux. Donc il faisait semblant, les renards et les raisins de La Fontaine, hein, il faisait semblant d'avoir choisi ce qui, finalement, il s'est mis à subir, en détestant des Juifs parce qu'ils étaient Juifs.
Il va même jusqu'à dire « je voudrais bien, pour ma part, être débarrassé de l'antisémitisme. Voilà. Mais je n'y arrive point. Oui. En réalité, quand je lis avec indignation le mauvais style de Bergson, vous mettez six contre parenthèses, je n'oublie pas qu'il est juif, et en cela, je me sens injuste. » Une espèce de tourment, on dirait Claude Frollo qui veut sauter Esmeralda dans Notre-Dame quoi, de Paris. Hein. « Il me semble qu'il faut être juif pour écrire aussi mal, et pour se présenter comme un bon écrivain. » Alors là, n'y a pas, photo.
C'est deux fois faux, d'abord. C'est deux fois faux, parce que d'abord, les Juifs n'écrivent pas mal, et ensuite, il n'y a pas plus bien. Beau style philosophique que celui de Bergson au XXe siècle. Ouais. Et pas seulement au XXe siècle, dans toute l'histoire de la philosophie française. Bon, c'est difficile de juger, moi, ça m'est difficile de juger du style de Montaigne ou de Descartes, parce que je n'ai pas les moyens de comparer la prose de Montaigne et la prose de ses contemporains ou de Descartes. Donc, je vois que ce sont des belles langues, dans les deux cas. Chez Bergson, il y a un génie littéraire. Il a d'ailleurs eu le prix Nobel de littérature, Bergson. Donc, il n'y a pas de prix Nobel de philosophie. Donc, c'est un homme génial. C'est un philosophe extrêmement important dans le siècle. Mais le plus problématique dans cette aventure, c'est qu'il n'y a pas qu'un antisémitisme de carriériste. Il y a aussi un antisémitisme dans sa cervelle dérangée à Alain. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aimer la pensée de Bergson parce que c'est une pensée juive. Il ne peut pas aimer la pensée d'Einstein parce que c'est une pensée juive. Et j'aimais l'hypothèse, il était mélomane lui-même, alors plutôt la musique des bourgeois qui jouent un peu Schumann, un peu Chopin, etc. Et puis, quand ils sont vraiment révolutionnaires, un peu de Forêt, mais jamais très au-delà. Et là, d'un seul coup, on est contemporain du dodécaphonisme, du sérialisme, encore des juifs. Un coup de Schoenberg, un coup de Berg. Weber n'étant pas juif, on les associe souvent, mais Weber n'était pas juif. Et donc, encore de la musique juive, quoi. Donc, la relativité d'Einstein, c'est pas une théorie scientifique, c'est une théorie juive. La pensée, je ne sais pas quoi, sur l'élan vital, sur la durée, la simultanéité, enfin, chez Bergson, c'est une pensée juive. Et puis, la musique contemporaine, c'est une musique juive. Et donc, on voit bien que ça va au-delà, chez Alain. Il n'y a pas que l'antisémitisme du pacifiste, il y a aussi ce type dont le cerveau est absolument imbibé d'antisémitisme. Et puis, pour aller un peu plus vite, c'est-à-dire que après la guerre, là pour le coup, quand on n'a plus aucune excuse, parce que pendant la guerre, on dit ah, c'est motards casqués qui sont des hommes dont les muscles sont faits d'acier ou ce genre de choses, on dit je rêve ou quoi. C'est du Junger. On se dit c'est Alain qui écrit ça, qui fait l'éloge des tankistes, des motards, des aviateurs nazis. Un Français, quand même, Alain, il pourrait se dire, c'est des gens qui nous ravagent, quoi. Pas du tout. Il dit, là, il y a quelque chose de formidable. Et à la Libération, on pourrait dire, bon, tu n'as rien su de, comme Mitterrand, quoi. Je ne savais pas du tout qu'il y avait des chambres à gaz. Je ne savais pas qu'il y avait la déportation. Je ne savais pas qu'il y avait des lois antisémites, dit Mitterrand à El Kabach, évidemment. Et il aurait pu dire, bon, ben voilà, j'ai assisté à 45, j'ai vu, je sais, oh, il y a eu Auschwitz, il y a eu Bergen-Belsen, il y a eu Neuengamme, il y a eu tous les camps, Dachau, etc. Eh bien, il préface le livre d'un ancien élève qui a été un collaborationniste dans les années 50.
Château.
Oui, c'est-à-dire qu'il continue. Il n'a même pas la décence de dire, peut-être que là-dessus, pas du tout, continue. Donc, il n'y a pas que le pacifisme, mais il y a aussi un peu ça chez Céline. C'est-à-dire, quand vous lisez les pamphlets, Bagatelle pour un massacre, l'école des cadavres, les beaux draps, etc.
La trilogie. Là.
C'est la même chose. C'est j'ai connu la guerre, ça n'a pas recommencé. Et puis, il y a des gens qui, à la Drieux-la-Rochelle, disent, j'ai connu la guerre, ça n'a pas recommencé, qui disent, eh ben, on va franchement être collaborationniste et ça nous évitera une deuxième guerre mondiale.
Alors, autre surprise, c'est dans le chapitre 2, une grande statue de la philosophie française. Je n'ose dire que vous le renvoyez vous la renvoyez cette statue à la poubelle de l'histoire quand on sait que le mot poubelle, vous allez nous en dire un mot, a un sens particulier pour lui. C'est Paul Ricoeur. Alors, au sujet de l'auteur de La mémoire, l'histoire, l'oubli, vous dites que c'est le livre d'un penseur qui connaissait bien le sujet, la mémoire, l'histoire, l'oubli, surtout l'oubli, puisque la propre mémoire de sa propre histoire fut pleine d'oubli, dites-vous, sinon de pire que l'oubli, disons, pour éviter le mot mensonge, d'accommodement raisonnable. Ça renvoie à du Charles Taylor, là, qui le sociologue québécois qui évoque les accommodements raisonnables. Donc, pour éviter des accommodements raisonnables avec son passé pétainiste. Alors là, il faut que vous nous racontiez. Ricoeur est en Neuflag de 40 à 45 et il adhère à une structure qui s'appelle le Cercle Pétain. Et ça, on en a la preuve, enfin, en tous les cas, le témoignage par quelqu'un dont il faut nous parler qui s'appelle Georges Gusdorf, qui est né à Codéran,
donc,
philosophe.
Vous avez appris, voilà,
bordelais, je vous ai appris ça tout à l'heure.
Il était bordelais.
Donc Ricoeur, alors quand même.
Le maître à penser d'Emmanuel Macron.
Entre autres.
Je pourrais m'arrêter là. Donc, effectivement...
C'est dans le livre, ça vous le dites dans le livre, d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Oui. Et donc, il y a une construction du passé chez j'allais dire Adolf Ricoeur, chez Paul Ricoeur, mais vraiment, ça aurait été un lapsus. Je l'ai retenu. Hein. Et donc, il nous dit, oui, j'ai été un peu pétiniste, pas longtemps, j'ai été abusé par des gens, ça n'a pas duré vraiment longtemps. Et ça, c'est le discours officiel. donc il a été pétainiste.
Et quand il dit pas longtemps, pardon Michel, c'est 40-41.
Voilà.
Avec une ambiguïté, dites-vous, sur l'année 41.
Bah oui, il y a en 41, janvier ou décembre. C'est quand même pas la même chose. Si vous êtes, si vous l'êtes encore en janvier 41 ou en décembre 41, ça ne veut pas dire grand-chose en 41. Et je fais effectivement la liste de ce qui s'est passé en 41, de la liste des forfaits antisémites, etc. On ne peut pas dire « je ne savais pas ». C'est-à-dire que quand il dit « ah, mais on travaille très bien sur… » Parce que bon, le camp de prisonniers, ce n'est pas le camp de déportation. Hein, ce n'est pas le camp d'extermination non plus, entendons-nous bien.
Un autre flagre, hein. C'est un camp de fichiers.
Voilà. C'est-à-dire qu'on a, on a des bibliothèques, on fait du théâtre. D'ailleurs, Sartre écrit une pièce antisémite qui s'appelle « Baryona ». Qui est tellement antisémite que les officiers nazis trouvent ça formidable et qu'ils disent « tu peux rentrer à Saint-Germain-des-Prés si tu veux ». Donc il rentre à Saint-Germain-des-Prés. Après, il dit « oh, la porte était ouverte, je suis sorti, je me suis évadé ». Enfin, c'est la légende telle qu'elle est rapportée par Simone de Beauvoir, mais c'est évidemment pas comme ça que ça se passe. Et donc, c'était des gens qui travaillaient à la pensée de Pétain et qui donc lisaient la presse. Et là, vous pouvez pas, en lisant la presse, ignorer qu'il y a des lois antisémites. Il y a des lois antisémites, on les connaît, la presse le dit, voilà, tous les jours. La presse est antisémite, la presse est pétainiste sous Pétain. Comme elle est macroniste sous Macron, comme elle serait le péniste si Le Pen arrivait au pouvoir, on sait comment fonctionnent les journaux. Et donc, il est en train d'enseigner le génie de la pensée du maréchal Pétain, mais pas seulement une année. C'est-à-dire qu'il y a un professeur auquel je rends hommage, qui lui, sur les quais, je ne sais pas s'il était professeur, mais enfin, je pense qu'il était professeur de philosophie, vous qui m'avez lu récemment et qui m'avez lu plus récemment que moi, je ne me suis lu. Sur les quais, il est tombé sur une revue, et d'un seul coup, dans la revue, qu'est-ce qu'on voit? Un texte de Paul Ricoeur qui est publié alors qu'il est en off-lag, mais le texte a été envoyé en France, et qui montre qu'il a été pétainiste en 42, en 43, en 44.
Jusqu'en mai 44.
Oui, parce qu'après, ça devient difficile. Donc, et c'est Georges Gusdorf qui passe le voir. Il faut lire Georges Gusdorf. Je n'ai pas eu le temps d'en parler encore à Denis, mais moi, j'ai adoré ce que j'ai lu de Gusdorf, qui a fait vraiment des très beaux livres. Et je connais son fils. Et on s'est rencontrés il y a peu. C'était une figure, hélas, oubliée, mais un vrai travailleur.
Enfin, qui non, normalien, philosophe. Hein, voilà.
Oui, c'est sur le romantisme, qui a écrit sur l'autobiographie, qui a écrit un magnifique livre qui compare la Révolution américaine et la Révolution française. Magnifique livre. Et donc des mémoires inédites. Je le dis à Denis, mais son fils dispose de mémoires qui n'ont jamais été publiées. Donc je ferme juste la parenthèse pour dire que Gusdorf va le rencontrer, et puis il dit en gros, t'es un salaud. Enfin, il écrit ça superbement. On sent que ça a dû assez mal se passer. Et l'autre se met à pleurer, Ricoeur, en disant oui, bah oui, je suis trompé.
J'ai été la dupe des Allemands. Et vous dites la dupe, mais c'est autre chose. Enfin.
Oui, simplement, il a menti. Il aurait pu dire, je me suis fait avoir, effectivement, mais beaucoup plus longtemps. Et moi qui suis philosophe, je vais utiliser mon expérience pour essayer de voir pourquoi et comment je me suis trompé. Après tout, on peut dire, j'ai été abusé. Et comment j'ai été abusé? C'est intéressant, le travail d'un philosophe qui, plutôt que d'aller chercher les idées de machin pensées par bidule et commentées par un tel, on peut toujours faire ça. Mais de se dire, moi, Paul Ricoeur, écrivant sur la mémoire, l'histoire, l'oubli, c'est le titre. Je pourrais quand même me dire, mais
c'est un livre qui est sorti, pardon, je précise, en août 2008.
Hein, oui, bien sûr.
La mémoire, l'histoire.
Oui, oui, oui. Avec, il était devenu une espèce de grand penseur du récit, de l'histoire, de la mémoire. Et il y a un moment donné où il commence à dire des choses sur le Front National à l'époque. Et il commence à dire, bon, ça commence à bien faire, le devoir mémoriel, c'est toujours pour les mêmes. Sous-entendu, laissez un peu le Front National tranquille. Monsieur Ricoeur.
Il dit plus que ça. Il dit, dans un article du Monde à Alexandra Laclaftine, il ne faudrait pas qu'une nouvelle intimidation venue de l'immensité de l'événement, entre parenthèses la Shoah, et de son cortège de plaintes, vienne paralyser la réflexion sur l'opération historiographique.
C'est clair.
Ah oui.
Et donc, Emmanuel Macron aurait dû savoir ce genre de choses. Parce qu'on peut dire, je ne savais pas en 41-42, etc. Mais vous voyez, comment dans l'histoire, quand on est un peu informé, quand on prétend avoir été l'assistant de cet homme-là, quand on sait qu'il a travaillé sur justement la mémoire, le récit, l'oubli, l'articulation du récit, de l'histoire, de la production de la vérité à partir de la mémoire et de l'oubli, du fonctionnement de l'oubli, enfin, des bouquins illisibles, 500 pages, vraiment, même quand vous avez une formation de philosophe, faut vraiment en vouloir. Des fois, on a envie de lui dire un petit article eût suffi. Mais les thèses, elles sont assez simples. Sauf que ce sont des mauvaises thèses. On a juste envie d'une confession autobiographique nous expliquant comment peut-on être aussi longtemps pétainiste. Et surtout, moi, je suis chrétien dans le fond. Je ne suis pas dans le fond. Mais c'est-à-dire que la faute ne me gêne pas. C'est le refus de la faute qui me gêne. C'est-à-dire que vous avez commis une faute, vous avez commis un péché, vous avez commis une erreur. Bon, tout le monde peut faire ça. Simplement ceux qui disent « Ah non, c'était pas une faute, c'était pas une erreur, j'ai jamais fait ça, c'est pas moi, c'est un autre, ça ne me ressemble pas », comme disait Lionel Jospin après avoir dit ce qu'il avait dit concernant Chirac. Si, ça te ressemble, puisque tu l'as dit. Donc, moi, j'aimerais que des gens disent « Oui, j'ai été ça, j'ai fait ça ». Ouf, comme Drieu-La Rochelle, on se met une balle dans la tête, c'est cohérent. Mais je ne demande pas ça à Ricoeur de son vivant, mais au moins une réflexion sur l'erreur. Il est utile consacrer un beau livre à la question de l'erreur en disant « J'ai moi-même été victime de cette erreur ». Et il s'envoyait quand même des fleurs protestantes, quand même, hein, c'est, tous ces gens-là. À l'époque, on a juste envie de leur dire « Peut-être que ça procéderait du christianisme dont tu nous fais l'éloge par ailleurs. Arrête d'être chrétien juste quand il s'agit de sortir de la messe le dimanche, mais sois-le sur des questions comme celle-ci. Et réfléchis sur la question de la confession de l'erreur, sur la rédemption, sur, etc. Enfin, sur des questions comme celle-ci, il aurait pu écrire. » Jean Kelevitch a écrit des très belles pages sur ces questions-là, sans se tromper, lui. Il était juif, donc il ne pouvait pas se tromper. Mais il a écrit de très belles pages sur la question du pardon, sur la question de l'imprescriptible, sur la question de la mémoire, de l'oubli, enfin des pages définitives. Hein. On ne va pas parler du pardon, mais quel beau livre. Et il n'y a pas eu ça chez Ricoeur, qui, de fait, jusqu'à la fin, donnait l'impression qu'il n'y avait pas, comme on dit aujourd'hui, qu'un antisémitisme d'atmosphère, mais qu'il y avait quelque chose d'assez viscéral, comme chez Alain, quoi.
Alors, vous évoquez, on n'a pas le temps, parce que moi, je veux qu'on avance sur la néantisation des Juifs, c'est la troisième partie. Vous évoquez, donc, à propos de Ricoeur, Jean Guiton, mais qui n'est pas classé comme philosophe de gauche, hein.
Non.
Vous dites de Guiton, il est mort pétainiste le 21 mars 1999, hein. Voilà, donc là on a bien compris. Alors, c'est
l'ami de Mitterrand, encore, hein.
Oui, avec qui ils évoquaient la mort,
le confesseur.
Voilà, le confesseur. Bon, alors, l'anéantisation des Juifs, là, c'est une sorte de trio infernal, Sartre, Beauvoir, Foucault. Je cite juste les titres de vos trois chapitres. Sartre résiste dès 1946, Beauvoir est fatigué d'Anne Frank, et Foucault attend l'imam caché. Alors, on va commencer par Sartre. Bon, son comportement résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, il est parfaitement connu et documenté, et c'est surtout qu'il n'est pas compliqué à écrire, puisqu'il est quasiment proche de zéro, hein. Et là-dessus, Michel Vinoc, on en parlait tout à l'heure avant de commencer, a parfaitement documenté cette partie de la vie du père de l'existentialisme, hein, dans un livre que Vinoc a consacré aux trois années, 44-47, en fait quatre années, qui sont celles de la libération de la France et des premières années qui suivent. Au centre de votre propos sur Sartre, il y a son livre « Réflexion sur la question juive ». Alors, en quoi ce livre est-il emblématique de l'antisémitisme de gauche? Et surtout, quel commentaire faites-vous de la célèbre phrase que vous citez « C'est l'antisémite qui fait le juif », en la mettant en relation avec le dogme sartrien qu'on connaît bien, « On est ce que l'on fait de ce que les autres font de nous ».
Oui, c'est exactement la même chose qu'avec le livre de l'abbé Grégoire, c'est-à-dire je m'étonne que des gens qui écrivent sur des auteurs semblent ne pas lire les auteurs ou ne les ont pas compris. Donc on a dit des réflexions sur la question juive, des juifs ont beaucoup dit que c'était un grand livre. Et je dis, mais comment pouvez-vous faire de ce livre un grand livre quand il nous dit... C'est un truc brillant de normalien.
C'est 46-47, hein, 46, hein, réflexion sur la question
juive. Oui, oui. Il nous dit, c'est l'antisémite qui crée le juif. Mais comment vous pouvez être opposé à quelqu'un qui n'existe pas encore, puisque vous êtes censé, par votre regard, le faire surgir? Ça me paraît simple, que si vraiment vous n'aimez pas les juifs, c'est qu'il va falloir commencer par l'existence d'un juif pour pouvoir le détester. Eh bien là, pas du tout. Donc il n'y a pas de juif, ça n'existe pas. Ce qui est une autre façon d'être négationniste, c'est-à-dire dire les 3000 ans d'histoire du peuple juif et rien, c'est pareil.
Simone de Beauvoir dit, il n'y a pas de juifs, il n'y a que des hommes.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire ils essentialisent ces gens qui sont contre l'essentialisation. Mais il y a l'homme. Et puis point à la ligne, ça n'existe pas, les femmes, les hommes, les grands, les gros, les gras, les maigres, les juifs, les catholiques, non, l'homme. C'est je vais pas dire le dernier métaphysicien, parce qu'il y en a eu d'autres, Deleuze entre autres, et quelques autres, et Derrida, mais c'est l'un des grands métaphysiciens français, Sartre, c'est-à-dire que il n'était pas conscience du réel du tout, totalement à côté de la plaque. C'est une belle idée, on va jusqu'au bout de l'idée. Et quand on a épuisé l'idée, ben on passe à une autre idée. Et puis si l'idée est contradictoire avec celle qu'on a défendue précédemment, ça ne pose aucun problème, on va aussi la défendre. Et puis on va changer d'avis sur ce sujet-là. Et il y a des passages d'un antisémitisme dans les réflexions sur la question juive. Je dis, mais vous n'avez jamais lu les réflexions sur la question juive pour dire que c'est un grand livre. Toujours sur la question du physique, du nez, des cheveux, etc., etc., etc. Sans cesse. Il le dit lui-même des années plus tard, quand il est devenu philosémite pour des histoires. Alors là, on est obligé de rentrer dans le détail, mais il s'est mis à coucher avec Arlette Elkaïm Sartre, enfin Elkaïm qui est devenu Sartre, il a couché avec cette femme qui avait l'âge d'être sa fille, il en a fait sa fille par la suite. Sylvie Le Bon a couché avec Simone de Beauvoir et elle en a fait aussi sa propre fille plus tard en épousant des gens avec lesquels ils avaient couché, enfin ça c'était les Thénardier. Eh bien, ça par exemple, c'est des extraits que j'ai voulu mettre dans mon livre et que Gallimard m'a interdit de. C'est pas Gallimard, disons que c'est les familles, comme par hasard. Et qui m'ont interdit de citer ces textes-là, qui sont des textes accablants. Mais d'un seul coup, Sartre, qui était rempli d'alcool, mais rempli d'alcool, d'amphétamine, détruit. Il suffit de lire la cérémonie des adieux pour voir dans quel état il est.
De Simone de Beauvoir.
J'ai dit, pardon.
Non, la cérémonie des adieux de Simone de Beauvoir.
Simone de Beauvoir.
Oui, je précise.
Oui, c'est ça. Oui. Qui est un beau texte d'amour, d'ailleurs.
Oui, c'est ce que vous dites.
Ah oui, oui.
Enfin, elle parle de détournement de vieillard. Hein.
Elle a raison.
Non, c'est alors, vrai. Par qui, faut
moi,
dire, par Benny Lévy
ah, oui.
et par Arlette
oui,
Elkaïm.
Oui, non, mais ça, elle a absolument raison. Il a été arraché, ce couple qu'ils ont fait l'un l'autre. Et là, d'un seul coup, Benny Lévy, alias Pierre Victor, ancien gauchiste, est passé du gauchisme, comme pas mal de gauchistes, d'ailleurs, via la psychanalyse, au messianisme,
au talmudisme.
Mmh. Et donc, la révolution, finalement, il fallait l'attendre des prophètes. Et donc, plus du tout de l'avant-garde éclairée du prolétariat. Et donc, le vieux Sartre, qui est là en train de faire tomber son dentier, de boire un coup de whisky, un petit coup de vin, puis qui reprend une boyarde et qui tire là-dessus. Et on lui dit, alors, Sartre, hein, c'est ça. Fait, oui, etc. Et puis, on consigne tout ça, et ça fait un entretien de l'Observateur. Et d'un seul coup, Sartre devenu philo-sémite. Donc évidemment, Arlette Elkaïm, tous les textes qui sont un peu problématiques et qui étaient franchement antisémites, il a fallu les passer de côté, quoi. Et les textes, par exemple, le texte dans lequel, en 1972, il défend, comme un certain Edvy Plenel aujourd'hui en son temps, mais il défend l'assassinat des athlètes israéliens à Munich, en 72, texte où il dit « Mais les Palestiniens n'ont plus que ça, donc il faut arrêter la création de l'État d'Israël. » D'ailleurs, il répond pas. Sartre a écrit surtout, vous voyez un mégot par terre, il faisait une thèse 500 pages. Donc, et il y a la création de l'État d'Israël, pas un mot.
Je vous dirais bien quelque chose sur la capacité à écrire beaucoup, mais bon.
Oui.
Mais je dis rien.
Mais moi, j'écrirais s'il y avait, je vous assure que s'il y avait la création de l'État palestinien demain matin, demain soir, il y aurait un papier. Mais donc, j'attendrai pas un an. Enfin, comparaison n'est pas raison, mais je veux dire, lui, il attend un certain temps, et quand il commence à réagir, il dit « Bon, d'accord, très bien, mais enfin, maintenant, il faudrait peut-être pas oublier les Palestiniens. » Donc ça commence, hein, l'antisémitisme à ce moment-là, en disant « Et ils n'ont que ça, la violence, etc. » Et puis, en 72, dans l'actuel, il dit « On n'a pas assez guillotiné en 1793, on aurait guillotiné un peu plus, on n'en serait pas là où on en est, etc. » Et il est toujours dans cette espèce de rhétorique de la violence. Et donc Sartre est dans la rhétorique de la violence, et après avoir dit que finalement les Juifs c'était des créations de l'antisémite, après avoir justifié Septembre Noir, il se met à nous dire que c'est le peuple messianique, enfin tout ça c'est une espèce de soupe totale.
C'est le bliki-boulga assez indigent. Alors je trouve que, peut-être que je me trompe, mais Simone de Beauvoir d'une certaine façon elle est plus claire, plus claire et plus brutale. Vous citez un livre qu'elle coécrit avec Gisèle Halimi sur Djamila Boupacha. Et c'est en 62. Et là, je vous lis, vous dites « Beauvoir fustige une catégorie de gens qui ne justifie pas la lutte armée politique des indépendantistes algériens, évidemment. » Et elle dit, Simone de Beauvoir, « Vous qui pleurez si volontiers et si abondamment sur les malheurs anciens, l'expression, vous ne l'avez pas vraiment relevée, mais je vais en dire un mot, parce que sur les malheurs anciens, entre parenthèses, Anne Frank, ou le ghetto de Varsovie, sauf que quand elle écrit ça en 62, les malheurs anciens, ils sont quand même pas si anciens que ça, puisqu'ils ont moins de 20 ans. Hein. Vous vous rangez, dit-elle, parmi les bourreaux de ceux qui souffrent aujourd'hui. C'est une phrase terrible, ça, parce que ça prouve que en 62, pour Simone de Beauvoir, vous dites, chez Simone de Beauvoir, les femmes et les juifs semblent compter pour rien chez cette femme.
Oui, ce sont des gens, Sartre et Beauvoir, qui, alors évidemment, se trompent pendant la guerre. Ils ne résistent pas, même ils collaborent. Sartre écrit dans un journal qui s'appelle Comédia, qui est un journal collaborationniste, en 41, en 43. En 43, il est même l'auteur de l'année, selon ce fameux journal collaborationniste. En 44, quelques mois avant le débarquement, et il pistonne Simone de Beauvoir pour qu'elle travaille à Radio Paris, une radio franchement pétiniste et ouvertement antisémite.
Donc Pierre Dac disait Radio Paris est allemand.
Oui. Voilà. France Inter,
on pourrait. C'est pas dans le livre non plus, hein, d'accord.
Et point de suspension. Et donc évidemment, à ce moment-là, ils commencent à écrire une histoire. Ils sont passés à côté de la résistance. Là, Simone de Beauvoir, elle ment, elle dans les mémoires, elle ment. Moi, j'ai lu ça quand j'avais 16 ans, 17 ans. Et non, c'était parole d'évangile. Simone de Beauvoir dit que, etc. En fait, il n'y avait pas de correspondance, il n'y avait pas de biographie à l'époque. Après, on a commencé à publier des correspondances, on a commencé à publier des biographies, on a commencé à trouver des renseignements, puis on s'est dit, pas toujours si vrai que ça, quoi. Et la Pléiade a fait une édition des mémoires de Simone de Beauvoir, et ce sont des mémoires absolument... Enfin, c'est une édition absolument sartrienne, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun commentaire critique, tout est vrai, on ne remet rien en cause, etc. Donc, ils ont été résistants. Sartre, il a même écrit un projet de constitution, il l'a envoyé au général de Gaulle, le général de Gaulle n'a rien répondu, etc., etc. C'est faux. Le général de Gaulle eut-il reçu une constitution de Jean-Paul Sartre qui lui aurait répondu, comme il avait déjà fait une fois dans une lettre, comme il le fera un peu plus tard dans une lettre, « Cher maître », quand De Gaulle a répondu à Sartre, il a écrit « Cher maître », et De Gaulle et Sartre a répondu « Il n'y a que les garçons de café qui m'appellent maître ». Et donc, le général De Gaulle a répondu à tous les courriers qui lui étaient faits, il répondait aux livres qui lui étaient envoyés, et soit il avait une capacité de lire qui était incroyable, il lisait tous les soirs, et soit il était capable de lire en travers ou en biais, de voir que le livre n'était pas forcément très, mais il y avait toujours un petit mot qui accompagnait la lecture. Vous pensez bien que si pendant la guerre, un certain Jean-Paul Sartre, auteur de Lettres et le Néant en 1943, etc., de la nausée un peu avant, etc., et avait envoyé un projet de constitution au général de Gaulle, le général de Gaulle n'aurait pas juste mis « vu » comme Mitterrand dans la marge, il aurait écrit « Cher maître, j'ai bien pris connaissance de votre projet, je ne sais pas quoi, parlons-en, rencontrons-nous, j'en sais rien, mais il y aurait eu des traces. » D'autant qu'il dit qu'il y a eu plusieurs copies de ce projet qui n'a pas existé. Et en revanche, il n'y a pas de preuve de leur résistance, mais il y a des preuves de leur collaboration. Radio Paris, comme média, etc. Le fait de faire jouer les pièces pendant l'occupation, il y a eu des photos où on les voit en train de boire du champagne après les représentations de pièces de théâtre. Donc ça a été évident. Il y a eu des preuves de leur collaboration de papier. Et ils n'ont donné personne, mais enfin de leur collaboration de papier. Et Jean Kalévitch aura une très belle formule. Il dira un peu plus tard, évidemment, qu'il s'était engagé à s'engager. Mais ils n'ont pas fait plus que ça. Ils ne se sont pas engagés véritablement. Et donc, comme ils sont passés à côté de ce moment-là, ils passent à côté du Front populaire aussi. Ils passent à côté du fascisme italien. C'est-à-dire que quand ils veulent partir en vacances en Italie, on leur dit « Ah, vous pouvez avoir des billets réduits, mais il faut juste aller visiter une expo fasciste. Vous avez un tampon, et puis on vous rembourse le billet, etc. » Elle fait ça, Beauvoir. Ils vont voir l'expo fasciste pour pouvoir se faire rembourser leur billet de train. Ça ne les gêne pas du tout dans les années 30. Et dans la correspondance, il n'y a pas un mot contre le fascisme. Ils ont vu des églises, ils ont vu des peintures, ils ont vu des rues extraordinaires, des enfants un peu sales et crados, ils ont mangé des nouilles, etc. Alors il y a tout ça. Pas un mot contre le fascisme. Ils passent à côté du Front populaire, ça ne les intéresse pas. Ils passent à côté de la résistance. Et en 1945, comme ils voient que les communistes, après avoir été collabos pendant 2 ans avec le pacte germano-soviétique, sont devenus résistants un peu tardivement après Barbarossa, quand Hitler rentre directement dans la Russie soviétique, il faut réécrire l'histoire. Et là, pour le coup, ils réécrivent une histoire du « nous avons été résistants, nous les communistes ». Et ils pèsent 25%. Et Sartre devient communiste à ce moment-là en disant « bah, compagnon de route, ça permet quand même d'avoir la presse, l'édition, l'université, etc. etc. »
Non, même si entre 41 et 44, on ne peut pas nier que le Parti communiste a été authentiquement résistant.
Mais pas du tout.
Comment entre 41 et 44.
Non. 41, non, ah oui, 41,
oui, pardon, oui,
d'accord.
De juillet 41, pardon, de juillet 41 à la libération, je précise bien.
Oui, oui. Oui.
Non, alors, mais c'est pour pas qu'il y ait de...
Oui, alors, on peut rentrer dans cette logique-là. Comment l'ont-ils été, résistants? C'est-à-dire pas du tout comme le général de Gaulle le souhaitait.
D'accord, mais c'est...
Et à quoi ça sert d'aller buter des officiers dans le dos en ayant l'impression que ça va faire avancer la cause de la résistance? Ça fait juste avancer la cause des prises d'otages. Il y en aura un qui s'appellera Guy Moquet, qui lui était en prison, pas résistant, mais parce qu'il avait distribué des tracts défaitistes, comme son père, donc qui invitait la
entre
collaboration.
39 voilà, et 40.
Et qui lui est là comme otage, un jour on le prend, on le fusille, etc. Et après les communistes disent regardez, on était résistant, la preuve, Guy Moquet est mort pour résistance. Pas du tout. Il a été pris comme otage.
Mais ça, c'est presque un autre livre.
Oui, c'est un autre livre, et bon. Je ne l'ai pas encore écrit. Mais non, juste pour dire que, oui, vous avez raison, après, c'est la grande guerre patriotique, et Staline dit, ça, voilà. Je me suis fait avoir, donc maintenant on résiste. Mais c'est surtout qu'en faisant très peu de choses, c'est pas terrible. C'est-à-dire, oui, il y a des petits groupes, il y a des machins. Puis après, quand ils ont compris qu'il y avait Stalingrad, qu'il y avait le débarquement de Provence, il y avait tout ça, il y avait Pearl Harbor, et à un moment donné, même Mitterrand a compris que c'était fini, qu'il valait mieux passer du côté de la résistance. Donc, ils sont devenus résistants. Mais enfin, bon... Et après, on demande à René Clément de faire la bataille du rail. Vous avez un film formidable où on peut encore bousiller des locomotives. Et vous avez 10 caméras qui sont là et on fait sauter des locomotives. Et tout le monde a vu la vie du rail. ça nous a laissé croire que...
La bataille du rail.
La revue de la SNCF, oui. Et c'était la vie du rail aussi à l'époque. Mais du rail...
Oui, on a compris.
Un peu dur, quoi. Et donc là, on fabrique une mythologie, et puis après, la mythologie, ça va jusqu'à Sarkozy, les Glières, etc. Enfin, et encore aujourd'hui, vous avez, dès que vous parlez du pacte germano-soviétique sur un plateau de télé, vous êtes un nazi, vous êtes, etc., etc. Or, oui, vous avez raison sur les dates, pardonnez-moi, je vous ai repris, mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ils sont devenus résistants, mais pas gaullistes.
Mais l'important, c'est ce que vous disiez, à la Libération, il pèse 25% du corps électoral, c'est le premier parti de France, et c'est vrai que quand on a des choses éventuellement, peut-être pas à se reprocher, mais à se faire oublier, il est préférable d'être compagnon de route de cette grande organisation.
Oui, et ça c'est une erreur, mais c'est pas une erreur à l'époque, mais du général de Gaulle, qui se retrouve devant une France détruite, ravagée, en partie par les alliés, ce qui concerne le nord de la France, et il faut remettre sur pied, quoi. Et donc là, s'il commence à dire « Ah ben toi, t'as été pétainiste, toi, t'as été vichiste, toi, t'as été maréchaliste, toi, t'as été collaborationniste pendant que t'étais communiste, et je te prends pas », il dit « Je prends tout le monde sauf les collaborationnistes, sauf ceux qui ont trahi la France ». Il dit « Mais Vichy, Pétain, bon, etc. » La preuve qu'il prend tout le monde, il prend aussi Mitterrand. Donc, qu'est-ce que vous allez filer comme ministère quand vous avez la responsabilité de construire le gouvernement? Vous dites « Je suis le général de Gaulle, j'ai des communistes avec moi ». Je ne vais pas les mettre à l'intérieur.
Surtout qu'il a négocié avec Staline, cette opération.
Bien sûr, oui. Je ne vais pas les mettre à l'intérieur, je ne vais pas les mettre à l'économie. Je ne vais pas mettre un communiste à l'économie libérale. On n'allait pas mettre un économiste aux affaires étrangères. Allô, Moscou, qu'est-ce que je fais? Tu fais ceci. Vous n'allez pas les mettre dans il n'y a pas directeur de la Banque de France. Il y a des postes qu'on ne peut pas leur donner. Qu'est-ce qu'on leur donne? L'école, l'intelligence, la culture, l'université,
la production,
la recherche, la justice,
l'électricité, le charbonnage. Et voilà.
Quand on nationalise, et bien, etc. C'est-à-dire qu'on fabrique ce que l'excellent Jean-Pierre Le Goff appelle le gauchisme culturel. C'est-à-dire on donne le monopole de la culture, c'est-à-dire de l'écriture de l'histoire. Et les communistes ont donc le monopole de l'écriture de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, où ils nous expliquent qu'ils ont été résistants, qu'ils ont, par exemple, été évidemment des défenseurs du FLN. Je rappelle qu'on a commémoré il y a peu de temps les massacres de Sétif et Guelma, et qu'en 1945, quand les Algériens légitimement descendent dans la rue et brandissent des drapeaux algériens et chantent des youyou pour se réjouir de la libération, et il y a un coup de feu qui part, on ne sait pas trop comment ça se passe, il y a un coup de feu qui part, qui le donne, on dit c'est un commissaire de police, on ne sait pas, enfin, toujours est-il qu'il y a un massacre. Et à l'époque, la une de l'Humanité, il stigmatisait les hitlérotrotskistes, pas ceux qui ont tiré sur la foule, mais les gens qui manifestaient. Donc bonjour les défenseurs de l'indépendance. Aujourd'hui, dès que vous avez une plume là où vous voulez, et que vous êtes sur un char de fierté LGBT, vous avez les communistes qui disent « on en est ». Mais je rappelle non, ça, que...
C'est toujours, c'est, on n'est plus dans le livre.
De ce combat. Non. Juste pour dire sur les communistes, juste un mot en disant que c'était quand même l'époque où ils étaient contre la pilule, où Jeannette van der Meij, qui était la compagne de Torres, disait « pas de pilule, pas d'avortement, pas de contraception, pas d'homosexuels, c'est tous des malades mentaux, en Union soviétique, il n'y en a pas, etc. » Je ferme cette parenthèse, juste pour dire qu'effectivement, ils partaient de loin, les communistes, pour nous expliquer qu'ils étaient à l'époque ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, mais ils sont aussi dans notre sujet, puisqu'ils sont islamo-gauchistes.
Alors, pardon pour la transition, mais Michel Foucault, bien sûr, c'est le troisième de la trilogie dans votre partie, Sartre, Beauvoir, Foucault, vous dites qu'il fut un incroyable caméléon, vitrifié par le wokisme, qui en fait à raison l'un de ses maîtres penseurs. Et vous posez la question, quel Foucault est le vrai? Mais vous répondez aussitôt, question nulle et non avenue, car le legs philosophique de Foucault est un néo-nietzschéisme. Alors je vous laisse expliquer.
C'est-à-dire que j'adore la biographie des auteurs pour mettre en perspective l'œuvre des auteurs, c'est-à-dire qui a fait quoi, quand, qu'est-ce qu'on a écrit, sous l'influence de qui, etc. etc.
Vous ne séparez pas l'œuvre
du
personnage?
Non, je suis pour Sainte-Beuve. Et dans ce qui oppose Proust à Sainte-Beuve, Proust dit il y a le moi littéraire et le moi personnel, ça n'a rien à voir, c'est très étanche, etc. Et Sainte-Beuve dit non, au contraire, c'est la vie qui explique l'œuvre. Alors, ça n'explique pas tout, mais oui, je suis de ce côté-là. Et donc, Foucault Alors, c'est pas compliqué. Il a été gaulliste sous De Gaulle. Il a été en mai 68. Alors, il était communiste. Non, il était gaulliste d'abord, communiste ensuite, gauchiste ensuite. Il a fini libéral. Et en fait, il a été mitterrandien le temps de Mitterrand. Enfin, c'est quelqu'un qui a été un caméléon total. C'est du côté du pouvoir, tant que le pouvoir a été ce qu'il a été, y compris quand il était contradictoire. Donc, il y a une espèce de jouissance. J'ai dit nietzschéisme pour les nuls, un peu. C'est-à-dire, il met une barque subjective et personnelle. Et si au moment où il travaille sur la question de l'université, De Gaulle lui est utile, il est gaulliste. Si à la libération on découvre que finalement les communistes sont puissants, il est communiste. Si à mai 68 et qu'il y a des gauchistes, il devient gauchiste. Si le libéralisme surgit avec un Mitterrand qui en 83 se met à défendre les idées de Giscard, il y a Thatcher, il y a Reagan, il y a tous ces gens-là, il devient libéral.
Et là en 79, il est roméniste.
Alors là, il défend effectivement.
Ça, c'est le passage, c'est le chapitre
oui.
que vous lui consacrez.
Oui.
Il est à la recherche de l'imam caché. On voit le clin d'œil, mais enfin, tous les cas, il est clairement pour la révolution iranienne.
C'est ça. Et il nous dit ah, enfin, le retour de la spiritualité dans la politique. Et donc, on lui dit bah oui, mais enfin, c'est un peu problématique. Ah, mais pas du tout. Le chat, c'est vraiment c'est le passé, c'est vraiment la tradition, la modernité, c'est vraiment l'avenir, c'est le Coran, l'avenir, ce sont les mollahs. Ils sont porteurs d'une pensée révolutionnaire, etc. Et on n'a pas un pour lui dire écoute, t'es homosexuel, t'as pas l'impression que. Je sais pas ce que dit le Coran sur les homosexuels. C'est tu vas pas tenir longtemps dans un Iran molatisé. Pardon, Denis, c'est juste
molaïsé, pas molatisé.
Molaïsé. Oui, absolument. Et donc, il voit pas le statut des femmes, il voit pas le statut des homosexuels, il voit pas non plus le statut des opposants. Il passe totalement à côté parce que c'est un théoricien. J'ai lu récemment, enfin, ça devient de moins en moins récent parce que ça fait un petit moment que j'ai quand même lu, je sais pas, peut-être un an ou deux, un livre qui est paru d'un de ses compagnons de coucherie, de beuverie et de drogue aux États-Unis qu'il avait reçu. Et
c'est le voyage en Californie,
oui, c'est ça. Mais il raconte vraiment dans le détail les propos de Foucault, etc. Et j'ai appris à cette occasion-là que cet homme qui a écrit Surveiller et punir, un livre très intéressant sur la prison, n'a jamais mis les pieds dans une prison. Il écrit l'histoire de la folie, il est un peu fou, donc il n'y a aucun problème, il parle d'expérience. Et je vous invite à lire des biographies de Foucault, une scarification, des trucs, il court auprès des gens avec des couteaux, enfin il est malade. Et donc, mais ce type écrit sur la prison, n'a pas mis les pieds en prison. Eh bien, je pense qu'il a mis les pieds en Iran, qu'il n'a jamais lu le Coran, et qu'il ne savait pas ce qu'il y avait dans le Coran. Simplement, il a lu des théoriciens du Coran qui nous font des commentaires sur le soufisme, sur l'excellence d'un islam médiéval. Et puis, il arrive avec son bagage intellectuel, culturel, livresque, et on lui dit juste « mais regarde ce qu'il y a à regarder. Interroge des gens, vois comment ça fonctionne, etc. » Il fait pour le Corriere de la Sera un certain nombre de textes qui sont consternants. J'analyse vraiment ligne après ligne, etc. Et j'ai vu l'autre jour à Radio Judaïka un jeune garçon brillant qui fait un travail qui m'a autorisé à faire état de ce que je vais vous dire ce soir, mais il le dira dans un livre qu'il est en train de faire. Mais il a rencontré un jour un ambassadeur, je tais le nom et je lui laisse la primeur de l'information, mais un ambassadeur qui lui a dit qu'il avait discuté avec Foucault et il lui avait dit à Foucault, cet ambassadeur, vous êtes trompé sur la question de l'Iran. Et il a dit oui. Et il dit, mais pourquoi vous n'êtes pas revenu sur cette erreur? Un peu comme Ricoeur, en disant, ben, revenez sur votre erreur. Et puis voilà. Et il dit, oui, j'aurais peut-être dû le faire, mais je ne l'ai pas fait. On en reste là, c'est-à-dire qu'on a la preuve que Foucault s'était trompé, qu'il savait qu'il s'était trompé, et il n'est jamais revenu sur son erreur. Et là, il n'est pas antisémite au sens classique du terme, il ne dit rien contre les Juifs, c'est pour ça, je pense que c'est peut-être celui qu'on pourrait sauver dans cette aventure. Mais parce qu'il ne dit pas les Juifs sont ceci, les Juifs sont cela. Je lui reproche juste d'avoir dit qu'un régime antisémite, d'abord n'était pas antisémite, de passer la question de l'antisémitisme sous silence, mais était le projet d'une spiritualité ou du retour de la spiritualité.
Vous dites lequel régime mettait au centre de ses priorités la destruction de l'État d'Israël.
Ben voilà, déjà.
Alors il y en a un autre qui. Alors on va se faire attraper par la patrouille, donc il faut qu'on accélère. Mais il y en a un autre qui est tout à fait étonnant. C'est dans le négationnisme exterminateur, c'est Roger Garaudy. Alors, il faut lire ce passage, parce que ce chapitre, il y a à peu près 30 pages, parce que Garaudy, c'est plutôt passé sous les écrans aujourd'hui, sous les radars, même si son nom est ressorti à l'occasion des phrases évoquées par l'abbé Pierre, puisque l'abbé Pierre soutient Roger Garaudy. C'est un personnage qui
était négationniste, disons-le, l'abbé Pierre était négationniste.
Oui, mais ça paraît empêcher l'abbé Pierre d'être un résistant aussi.
Oui,
bien sûr. Bon, voilà. Hein, oui. Bon, et dans un livre qui s'appelle Les mythes fondateurs de la politique israélienne, Là, vous dites clairement, Garaudy. Alors, c'est un livre qui est publié en 96. Hein. Il a été viré du PC, du PCF en 1970.
Un peu après mai 68.
Oui, 70. Hein. Mais donc, en 96, il écrit les mythes fondateurs de la politique israélienne. Vous dites qu'il soutient que les nazis n'ont pas mené de politique exterminationniste, qu'il n'y a pas eu de chambre à gaz, ce que vous disiez tout à l'heure, et que les juifs ont inventé la Shoah pour justifier la création de l'État d'Israël. Là, vous dites qu'il devient une véritable vedette dans le monde arabe. Mais ce qui est intéressant, si je puis dire, avec son islamo-gauchisme, c'est plutôt la haine de l'Occident qui le conduit et qui le guide. Vous dites, il dit, l'Occident est un accident, avec une phrase qui suit, sa culture est une anomalie. Ça, vous dites, c'est stupéfiant qu'on puisse dire ça. Voilà.
Oui, et j'ai été étonné, parce que je fais partie de ceux qui ont vu les bibliothèques des anciens quand j'avais une quinzaine d'années et que j'allais chez des gens de gauche. Il y avait toujours dans la bibliothèque 3 ou 4 bouquins de Garaudy. C'était vraiment une vedette totale. C'était d'abord un chrétien, communiste, converti ensuite à l'islam. Enfin, c'était une soupe un peu. Tout ça et la main tendue des marxistes, enfin des communistes aux chrétiens à l'époque, ça faisait du bruit les années 70. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté au parti communiste. Puis après, c'est le logiciel de Mélenchon, c'est sidérant. J'ai été sidéré de me dire que tout ce qu'il y avait dans le cerveau de Garaudy est dans le cerveau aujourd'hui des gens de la France insoumise. Enfin, oui, de la France insoumise. Enfin, pas tous, mais une grande majorité, puisque du moins ceux qui ne l'ont pas quitté et qui ne sont pas gênés par le compagnonnage avec de véritables antisémites. Mais cette idée de les Juifs ont inventé la Shoah, elle n'a pas eu lieu, etc., etc., parce que j'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui dit ça. Et de fait, l'Iran lui donne beaucoup d'argent. L'Arabie saoudite lui donne beaucoup d'argent. Il devient une vedette incroyable. Et ce sont des gens qui, comme les communistes dans les années 40-50, enfin plutôt 50, quand ils faisaient le voyage en URSS, avaient des conditions de réception, cigarettes, whisky et petites pépées. C'était vraiment un peu d'argent, un peu de... On publie les livres en traduit en russe, etc., des avances, etc., des petits garçons pour ceux qui aiment les petits garçons, et puis des petites photos pour éventuellement faire chanter ces gens-là un petit peu plus tard. Mais on comprend que certains soient revenus très enthousiastes d'un voyage en URSS parce qu'on les achetait de cette manière-là. Et là, on voit bien dans la vie que mène Garaudy, finalement la vie de quelqu'un qui s'est fait virer du Parti communiste, qui en avait fait une vedette, mais d'un seul coup, il était dans le caniveau. Et là, il devient un personnage quasi officiel, reçu quasiment comme un chef d'État en Iran, en Arabie saoudite.
Bon, on va devoir arrêter.
Compagnon de route de la cause palestinienne.
Voilà. Alors, la suite, c'est tout à fait passionnant. Vous évoquez Deleuze, Alain Badiou et Madame Cécile Winter. Hein. Et puis Jean Genet. Alors, un passage, un long chapitre sur Jean Genet, qui a été, en quelque sorte, mis sur un piédestal statifié par Sartre, Saint Genet, comédien et martyr. Bon, c'est tout à fait passionnant ce que vous écrivez sur Genet et sur un antisémitisme, alors là, brut de décoffrage.
Pas mieux faire. Oui.
Hein, difficile de faire plus simple. Alors, on va terminer par ce que vous appelez aujourd'hui l'islamo-gauchisme. C'est votre conclusion. Hein, vous avez... On en a parlé au tout début de notre entretien. Quatre temps dans l'antisémitisme, hein, quatre périodes. L'antisémitisme d'aujourd'hui, vous dites, c'est islamo-gauchiste qui dit ne pas exister. Vous dites que ça renvoie à la taqiyya, qui est le mensonge, la dissimulation, dès lors que c'est pour faire triompher la cause de l'islam. Vous dites, et pardon, je vais parodier le fameux livre d'André Frossard, Dieu existe, je l'ai rencontré. Vous dites, l'islamo-gauchisme existe, je l'ai rencontré, et c'est le projet du livre. Quelles sont les 10 volontés qui caractérisent, selon vous, l'islamo-gauchisme? C'est la toute fin de votre livre. Alors, donnez-nous-en quelques-unes pour pas avoir les 10.
Oui, parce que là, il aurait fallu qu'on passe l'heure sur les 10 commandements. Voilà. Il aurait fallu que je les ai sous les yeux aussi. Parce que
je les ai là.
Non, je ne vais pas me lire. Ouais. Mais en substance, disons que tant que le monde a été industriel et qu'il y avait les bourgeois et les prolétaires, les bourgeois possédant les moyens de production, les prolétaires ne possédant pas les moyens de production, Marx nous disait qu'il fallait que l'avant-garde éclairée du prolétariat puisse instaurer justement une dictature qui permettrait l'appropriation collective des moyens de production pour réaliser la révolution. C'est le schéma. Ce schéma disparaît avec la modification de la sociologie du capitalisme, le capitalisme du 19e siècle, avec les enfants dans les mines, avec les femmes au travail, avec des journées de 15 heures, ça n'existe plus en France, du moins. Et donc, évidemment, il faut trouver un autre logiciel. Eh bien, ce logiciel est donné par Terra Nova, un think tank strauss-kahnien, à l'époque où on pensait que Strauss-Kahn pourrait être président, candidat à la présidence de la République.
2008-2009.
Peut-être, je ne sais plus la date très exactement, où il est dit très précisément que, en gros, le petit peuple, le gros du prolétariat est parti chez Marine Le Pen, chez Jean-Marie Le Pen, au Front National, et qu'il faut les laisser, de toute façon, et qu'il faut refabriquer un peuple de substitution, que ça ne sera pas l'avant-garde éclairée du prolétariat qui sera le bras armé de la révolution anticapitaliste, mais que ce sera ce néo-peuple, je l'appelle comme ça, ce néo-peuple qui sera constitué de racisés, comme il est dit avec le vocabulaire d'aujourd'hui, de néo-féministes, de LGBT queer, etc., de migrants, de maghrébins, de musulmans intégristes et radicaux, de gens qui sont dans les prisons, etc. On y est, juste en disant, avec ce nouveau prolétariat, faites tomber le capitalisme. Alors, en gros, je pourrais reprendre les dix thèmes, mais je veux dire que ce qui distingue effectivement l'islamo-gauchisme aujourd'hui, c'est de dire, faisons confiance à ce néo-peuple. Donc, quand on a des OQTF qui violent des vieilles dames, c'est au contraire l'avant-garde éclairée de la révolution anticapitaliste. Donc, il faut les défendre. Et puis, si on a des Blancs qui sont victimes de ces gens-là, ben, ce sont des coupables, puisque de toute façon, ils représentent le patriarcat, le mâle dominant, le
Blanc. Et face à cela, dites-vous, il faut aussi transformer Israël en bouc émissaire à égorger.
Eh bien, effectivement, chez eux, vous avez un ennemi, et ça, c'est formidable. On a trouvé, jadis, il y avait le patron, il y avait le bourgeois, alors ça continue. Quand on entend Manon Aubry, quand ils se mettent à parler des riches, des patrons, il y a une espèce de bave qui arrive, là, et on se dit, calmez-vous un peu, sans les patrons, vous faites quoi? C'est quoi une révolution dans laquelle vous allez pendre tous les patrons? Ça n'a aucun sens. Donc, il y a une détestation du capital et du capitalisme qui fait la loi chez ces gens-là en permanence. Et donc, on voit bien que dans la configuration d'aujourd'hui, c'est la carte que joue Mélenchon. Et comme Mélenchon a le leadership et que derrière les socialistes se disent sans lui, on ne peut pas être élu, donc il y a derrière tous ces gens. Et puis il y a surtout une espèce de jeunesse dont le cerveau est un peu fait de fromage blanc et qui croit tout ce qu'on leur raconte, le palestinisme. Enfin, vous avez même Mathilde Panot à qui on dit, mais c'est à l'est ou à l'ouest du Jourdain que ça doit exister. Et là, Mathilde Panot dit, c'est quoi le Jourdain? Peut-être même, c'est quoi l'est et l'ouest? On ne sait pas. Mais toujours est-il que ces gens qui défendent la cause palestinienne sont incapables de savoir ce qu'est le Jourdain, sont incapables de savoir ce qu'il y a à l'est, ce qu'il y a à l'ouest. Et on se dit, bon, ben voilà, quand même une inculture manifeste. C'est de l'oglu, quoi, qui dit à un moment donné, Pétain, etc. On se dit, effectivement, quand on a des cultures de ce type-là, on peut dire les sottises qu'on dit. Il n'y a pas d'enseignement de ce qu'est la construction du palestinisme, qui est une invention des soviétiques. Il n'y a pas de construction de géographie, il n'y a pas de construction d'histoire de religion, il n'y a pas de culture, quoi. Donc, c'est ça qui est assez désespérant, il faut que je m'arrête.
Merci beaucoup, Michel Onfray, merci beaucoup. Merci à vous.